France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir le sociologue Louis Chauvel, dont le dernier livre publié au Seuil s'intitule « La spirale du déclassement ». Un essai qui a le mérite de pointer des réalités que le débat public a tendance à oublier par habitude, mais aussi par ignorance. Et c'est un des mérites de cet ouvrage que de nous livrer des chiffres très précis sur cette classe moyenne qui a tendance à s'appauvrir génération après génération, selon lui. Au sommaire de cette première heure également, un reportage d'Edouard Zambeau avec des lycéens qui s'inquiètent justement pour leur avenir. Un focus d'Élodie Forêt sur les attentes de la jeunesse à travers le livre blanc qu'une vingtaine d'organisations ont publié il y a quelques jours. Les bonnes ondes de Sandrine Houdin qui a embarqué avec des enfants malades pour un vol pas comme les autres à la rencontre du Père Noël. On n'oublie pas le mot de la semaine de Mariette Darry-Grand cette semaine. L'expression « faire campagne ». À 19h20 au téléphone sonne ce que les jeunes attendent de la présidentielle. Que vous soyez jeune ou pas, vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous laisser un message sur les réseaux sociaux avec le mot dièse « Telson ».
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Louis Chauvel.
Bonsoir.
Vous publiez un livre tous les 10 ans, mais je le dis franchement, on ne perd rien pour attendre. En 2006, vous aviez marqué les esprits en publiant « Les classes moyennes à la dérive ». Vous récidivez, si j'ose dire, avec « La spirale du déclassement », toujours aux éditions du Seuil. Un essai archi-documenté avec des courbes, des graphiques, des tableaux, mais vous n'êtes pas statisticien pour rien. Sur le fond, le tableau est sombre. Votre livre est un cri d'alarme face à un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui, dans le même temps, curieusement, ne fait pas les gros titres des journaux. L'appauvrissement de la classe moyenne en France, génération après génération, pour vous, c'est un sujet majeur ?
C'est un sujet majeur et c'est un sujet qui dérange. C'est une réalité qui dérange, peut-être autant que les problèmes climatiques ou d'autres éléments qui pèsent de plus en plus de génération en génération. Le problème avec le déclassement social, c'est que nous voyons en France et dans beaucoup d'autres pays concernés, beaucoup d'autres pays développés, occidentaux, et notamment les États-Unis, nous voyons une situation où de plus en plus, des gens qui seraient dans les classes moyennes supérieures par leur diplôme, se trouvent dans le précariat et dans des situations économiques insolubles. Et en fait, l'élection de Donald Trump, par exemple, a révélé récemment aux États-Unis une situation parallèle, à la limite encore plus difficile que celle que l'on voit en France. Mais la situation en France est déjà très fortement enquistée dans le corps social français. Les déstabilisations américaines sont plus anciennes que ce que l'on mesure en Europe. Mais malgré tout, notre processus français, notre processus européen en Allemagne, en Autriche, plus encore en Espagne et en Italie, sont extrêmement visibles. Et nous ne savons pas où nous mène cette espèce de pente qui dérape progressivement vers plus bas, et les conséquences politiques peuvent en être extrêmement lourdes.
Alors on va y revenir, Louis Chauvel, mais qu'est-ce que vous répondez pour commencer à ceux qui disent que c'est un problème de classe sociale et que c'est pas une histoire de génération ?
Il y a les deux, c'est-à-dire qu'en fait, dans une région que je connais très bien, la Lorraine du Nord...
Je dis ça parce que vous dites Lorraine du Nord, vous êtes professeur au Luxembourg.
Je suis professeur au Luxembourg, je suis chercheur et professeur à l'Université du Luxembourg, je suis aussi chercheur affilié à Sciences Po à Paris, à l'Observatoire sociologique du changement. Il se trouve que le Luxembourg est immédiatement à proximité de Longwy, de Villerupt, de Thionville, de l'ensemble de cette... Et voilà une quarantaine d'années, la classe ouvrière dans ces pays, dans cette région française, ce n'est pas la seule, Nord-Pas-de-Calais, on trouve la même chose, autour d'Alès, vous avez tout un ensemble de régions où la classe ouvrière était peut-être plus pauvre, voilà 40 ans, mais elle vivait de son travail indépendant, par son travail fier, dans un monde salarié où le chômage existait déjà, mais était plus anecdotique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème dans toutes les classes de la société, même parmi les bac plus 5, c'est la réalité évidente que le chômage est au coin de la rue, est au coin de la porte, les salaires ne permettent plus de se loger, que les structures familiales sont devenues de plus en plus déstabilisées et donc les solidarités familiales éventuellement plus difficiles, dans un contexte même où il faut vraiment deux salaires par ménage pour pouvoir vivre correctement.
Ce que vous nous dites, c'est que l'écart entre les classes moyennes et les plus pauvres se réduit, c'est ça ?
Nous mesurons effectivement le fait que l'écart, cet écart entre les classes moyennes, les catégories intermédiaires de la société, typiquement les cadres moyens, les instituteurs, institutrices, l'ensemble des catégories de type technicien, se retrouvent pris en sandwich entre un camion balai qui remonte les gens de plus en plus en difficulté, notamment les gens dans le chômage de masse, mais que ces catégories moyennes, intermédiaires, salariés, on peut faire une longue liste telle que chauffeur de taxi, contrôleur de train, les statuts sont très différents, les uns et la stabilité de l'emploi à court terme complètement différente, mais tous voient le fait que pour ceux qui ne sont pas massivement aidés par leurs parents, par un logement gratuit ou par tout un ensemble de soutien des parents qui ont pu épargner dans les années 60, dans les années 80. Sans cela, les jeunes générations dans ces catégories moyennes salariées font face à une situation de vraie nécessité. Et cela se mesure dans tout un ensemble d'indicateurs sociaux, à la fois objectifs et subjectifs. J'en veux pour preuve, par exemple, qu'on suit depuis une dizaine, quinzaine d'années la question, au même âge, est-ce que vos parents se portaient mieux que vous, vivaient mieux au même âge que vous-même. Voilà 15 ans, on avait une quarantaine de pourcents de réponses, oui, mes parents vivaient mieux que moi. Maintenant, nous sommes montés en septembre à 70% et avec des évolutions vraiment stupéfiantes sur un temps relativement court.
Et avec des jeunes qui aujourd'hui disent qu'ils pensent qu'ils vivront effectivement moins bien que leurs parents. On y reviendra tout à l'heure, Louis Chauvel. On va passer à l'actualité de la semaine avec ce mix qui a été préparé par Violaine Ballet. Semaine chargée, une fois de plus, sur le plan politique avec tout d'abord ce tollé provoqué par les propos de Ségolène Royal à Cuba où elle représentait la France aux obsèques de Fidel Castro.
Ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. Fournissez-moi des listes de prisonniers politiques et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose.
Hasta la victoria siempre.
Jacques Lang n'en est toujours pas revenu.
Avait-elle bu un peu trop de rhum en arrivant à La Havane ? Comment peut-on à ce point nier la réalité ?
Patria o muerte.
La ministre de l'écologie que l'on n'a pas beaucoup entendue sur la pollution cette semaine. Pollution à grande échelle sur une bonne partie de la France et notamment dans les vallées alpines. À Sallanches, en Haute-Savoie, des habitants excédés par le manque de réaction des autorités ont même manifesté.
On en a ras-le-bol, que les pouvoirs publics ne bougent pas. Il y a même des maires qui disent qu'il n'y a pas de pollution, c'est pas entendable.
On ne peut pas continuer à dire à nos enfants, restez à la maison, sortez pas, faites pas de sport.
Il faut savoir si on veut respirer ou on veut crever, quoi, c'est différent.
Sallanches, où les habitants réclament de véritables transports en commun. Dans la région parisienne, où ce n'est pas ça qui manque, malgré les pannes, l'Homo Automobilus a décidément bien du mal à respecter la circulation alternée.
Moi, ça m'emmerde, je suis obligé de prendre les transports. 2 heures dans les transports, ouais, ça emmerde tout le monde. Hein.
Vous avez une plaque qui vous autorise pas à circuler aujourd'hui ?
Ah bah zut alors.
Bah, tant pis, je paierai l'amende.
Un cas loin d'être isolé, la circulation alternée est mal respectée, mal défendue par les pouvoirs publics, accuse l'eurodéputé vert Yannick Jadot.
On attend toujours la petite brise, la petite pluie qui va permettre aux autorités de ne pas agir. Et puis une fois qu'on agit, il n'y a aucun contrôle.
Le candidat vert à la présidentielle en profite au passage pour tacler ses concurrents.
Qu'est-ce qui réunit aujourd'hui un Fillon, un Valls, un Montebourg ? Ils adorent le diesel.
Manuel Valls, candidat depuis lundi soir, déclaration faite depuis la mairie d'Evry, 4 jours seulement après le renoncement de François Hollande.
Je suis candidat à la présidence de la République. J'ai cette force en moi.
Manuel Valls, candidat, a prononcé un discours d'opposant à sa propre politique.
Arnaud Montebourg a bien vu la faille. D'ailleurs, Manuel Valls tente un début de mea culpa.
J'ai pu avoir des mots durs, susciter des débats.
Elle ne serait jamais votre allié.
Des incompréhensions.
Si seulement vous connaissez le pouvoir du côté obscur.
C'est ça, la gauche. C'est le débat.
Ça risque quand même d'être difficile, surtout vu le nombre d'anciens ministres socialistes qui se présentent à cette primaire. Dernier en date, Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation. À propos d'éducation, les années passent, mais rien n'y fait. Le dernier rapport PISA montre que rien ne change. La France ne sait pas lutter contre les inégalités scolaires.
Vous avez un tiers de bons élèves en France, c'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Et vous avez 20% qui sont en échec scolaire, c'est là encore plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Les inégalités n'ont pas pas reculé en France depuis une bonne dizaine d'années.
Bah quand on compte 100 plus 100, je sais pas.
Allons, c'est pas grave pour cette fois-ci. Le Père Noël passera quand même.
Noël.
Et encore merci à Violaine Ballet. Un mot, Louis Chauvel, les inégalités scolaires persistantes, dit l'OCDE. On en parlera donc ça de tout à l'heure à propos des diplômes. Mais un petit mot à propos de ces classes moyennes sur lesquelles vous travaillez depuis si longtemps. Comment définit-on les classes moyennes ?
En fait, la définition des classes moyennes, c'est quelque chose qui est très différent d'un pays à l'autre. Ce qui est vraiment stupéfiant dans le débat français, c'est qu'en fait, beaucoup plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Allemagne, dans les pays nordiques, la première question des journalistes, des collègues dans les universités, ainsi de suite, c'est les classes moyennes, ça se découpe comment ?
Et ça gagne combien, c'est ça ?
Et en fait, typiquement, ce qu'on trouve en France, c'est que 50% de la population vit avec un salaire compris entre 1500 et 4500. C'est quand même une grosse marge de 1 à 3, c'est énorme. Vous vous rappelez au début où François Hollande d'aller discuter la question de c'est où les riches, comment ça se découpe.
Vaste débat.
Et en fait, typiquement, le noyau central des classes moyennes, c'est-à-dire cette espèce d'archipel de professions relativement continues, c'est l'ensemble des catégories B de la fonction publique. Ce sont notamment les infirmières, les techniciens, ce sont les contrôleurs de train, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont tout un ensemble d'emplois où les gens ne sont pas en situation directement d'expertise ou de décision par rapport à ce qu'ils font, ni dans une exécution de base. En tout cas, dans la théorie des années 1970-1980. Mais dans ce noyau central de la société, entre 1500 et 4500 euros par mois de salaire, par exemple, si on prend cette échelle-là, la partie inférieure, le tiers ou la moitié inférieure de ce grand groupe social-là, constate que le management les positionne progressivement dans un esprit d'emploi d'exécution. On parle moins de postier que d'agent tout objet. Vous voyez,
il y a ce déclassement-là aussi, cette idée-là aussi. Louis Chauvel, il y a une chose sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre livre, qui est une question centrale, c'est la question du logement et la question du patrimoine. On a bien vu que le prix de l'immobilier avait énormément augmenté ces dernières années. Pour vous, ça fait la différence pour la classe moyenne, selon qu'on est propriétaire ou pas ?
C'est une différence de plus en plus clivante et radicalement porteuse de distorsions dans les classes moyennes. En fait, vous dites que je travaille sur la question depuis longtemps. Je ne suis pas sûr d'être le sociologue qui ait le plus d'ancienneté sur ce sujet-là. En revanche, mon travail consiste à comparer la situation de la génération précédente, notamment dans les années 1970, et ce qui se passe aujourd'hui. Le logement marque un décalage complet entre les deux classes moyennes à une génération de distance. C'est-à-dire que dans les années 70, l'argent des parents, leur épargne, l'héritage, c'était pas si important. Les salaires étaient suffisants pour être autonome dès l'âge de 25 ans, à la location et un peu plus tard à l'achat, pour se réaliser soi-même et proposer à ses enfants une bonne carte scolaire, des conditions non seulement de logement, mais aussi de tout ce qui a trait à la proximité au voisinage, qui permettait en fait de bénéficier d'un sentiment de mobilité sociale ascendante, géographiquement parlant, par l'habitat, qui s'est arrêté. Et ça s'est arrêté d'une façon assez brutale dans le courant des années 90, et une deuxième fois au début des années 2000, où même aujourd'hui avec de très bons salaires, vous ne pouvez plus vous loger, pas simplement à Paris où c'est la chose évidente, mais dans toutes les grandes villes de région, sur tous les marchés de l'emploi un peu actifs, Grenoble est au fond d'une cuvette, les prix des logements...
Ceux qui même ont réussi à se constituer un patrimoine se sont mis à l'abri, les autres...
Ce que l'on mesure revenus, surtout, c'est que dans la même catégorie sociale, c'est-à-dire dans les mêmes techniciens, les mêmes ingénieurs, les mêmes journalistes, profs ou quoi que ce soit, vous avez deux groupes dans chaque classe de cette société, vous avez deux sous-groupes dans chaque groupe de la société, ceux qui en ont du patrimoine et ceux qui n'en ont pas. Et en fait, cette différence entre les milieux sociaux avec des parents vraiment...
Ça fait la différence.
Affluent et généreux étant très important dans la phrase, et les autres amènent à une séparation totale des solidarités à l'intérieur de chaque groupe.
Effectivement. Louis Chauvel, on a beaucoup parlé politique cette semaine avec l'entrée en campagne de Manuel Valls qui a été remplacé par Bernard Cazeneuve à Matignon. 5 mois seulement de la présidentielle. À noter que les jeunes, eux aussi, s'invitent dans le débat présidentiel à leur tour. Ça va vous intéresser. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Il y a quelques jours, le Forum français de la jeunesse, qui regroupe une quinzaine d'organisations politiques, syndicales et associatives, a publié un livre blanc avec 22 propositions.
22 propositions pour améliorer les conditions de vie, mais aussi donner une vraie place aux jeunes dans notre société. Mais au fait, les jeunes, c'est quel âge? La réponse de Milena Le Breton chez Bouba, déléguée générale du Forum français de la jeunesse.
Au FFJ, on a choisi la tranche d'âge 15-30 ans. De 15 à 30 ans, on est en train de se former à l'école, en formation. Du coup, pas forcément avec un revenu fixe tous les mois. On est entre chez ses parents ou alors dans un logement qu'on loue. On déménage souvent. On n'est pas encore forcément stable. C'est pas définitif. Alors que quand on s'approche de la trentaine et qu'on la dépasse, on a d'autres thématiques. On est peut-être plus souvent posé avec un travail stable. On pense peut-être avoir des enfants. Du coup, c'est d'autres thématiques que cette tranche d'âge des 15-30 ans.
Une tranche d'âge 15-30 ans sous-représentée dans les instances décisionnelles. Un exemple parlant, clair, à l'Assemblée nationale, seuls 15% des députés ont moins de 40 ans. Pas étonnant donc que les politiques soient déconnectées de la jeunesse, comme l'explique Thibaille, 26 ans, parisienne.
Le simple fait que la classe politique ait une tranche d'âge assez élevée ne permet pas en fait de prendre en compte vraiment ce que nous on attend, ce dont on a envie et de valoriser ce qu'on fait déjà. Parce qu'en fait on n'attend pas les politiciens pour faire des choses. Par contre, est-ce qu'on reprend ce qu'on fait? Est-ce qu'on valorise ce qui est fait par les jeunes? Ça je ne pense pas et les candidats politiques devraient se positionner beaucoup plus là-dessus. Le fait qu'on vit dans une société qui change beaucoup et qu'on a des parcours un petit peu chaotiques parfois et qu'on va pas avoir une vie toute tracée et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas du tout pris en compte dans la manière de concevoir la société par la classe politique en fait. J'ai pas l'impression qu'on prend en compte cette dimension de débrouille, de choix qu'on fait, de changement de vie, d'initiative qu'on prend. J'ai l'impression que c'est pas forcément pris en compte.
Des parcours plus chaotiques, effectivement, plus hachés, moins linéaires que leurs aînés. C'est vraiment ce qui revient au fil des entretiens que vous avez menés, Élodie.
Oui, et c'est pour ça que le Forum français de la jeunesse consacre une large partie de son livre blanc au soutien et à la valorisation de toutes les expériences qui ne relèvent pas du scolaire ou du professionnel. Camille Legault est directrice du réseau d'associations étudiantes AnimaFac, membre du FFJ.
L'idée de reconnaître ça, c'est de ne plus se dire qu'on va acquérir simplement des compétences et des connaissances par un diplôme et par un parcours de formation très formel, mais que toutes les formes d'apprentissage peuvent se combiner et que tout ça va pouvoir faire progresser et faire avancer le parcours des gens tout au long de la vie.
Et pour soutenir toutes les formes d'engagement, syndical, associative ou politique, le FFJ recommande de simplifier et de rendre plus accessibles les VAE, les valorisations des acquis et de l'expérience.
Élodie, avec 25% de chômage, c'est chez les 18-30 ans, contre 10% pour le reste de la population. On comprend bien pourquoi les jeunes Français parlent de parcours plus chaotiques. Alors, pour le Forum français de la jeunesse, que peut-on améliorer? Comment faire baisser ce chômage?
Eh bien, pour le FFJ, ça passe d'abord par un meilleur suivi des jeunes. Quand j'ai feuilleté le livre blanc avec Amanda, 21 ans, en service civique, et avec Yann, jeune chômeur longue durée, c'est en effet de ce manque d'accompagnement dont ils m'ont parlé.
Quand les parents n'ont pas forcément du temps à consacrer à leur enfant, qui est une sorte de parrain, une sorte de tuteur, ce qui manque en France, ouais, c'est l'information vis-à-vis des jeunes, pour les jeunes en tout cas, pour qu'ils puissent avancer correctement et s'orienter correctement.
Quand on n'a pas de diplôme, on ne peut pas se lancer en soi, on n'est pas crédible. Il nous manque en fait ces personnes qui pourraient nous encadrer et nous faire avancer, nous dire on peut y arriver quand même sans forcément être diplômé, bac plus 5, etc.
Un suivi et un seul service pour informer, orienter et accompagner les jeunes de l'école à l'emploi stable, c'est l'une des principales revendications donc de ce livre blanc, tout comme le renforcement du droit à la formation et la limitation à un seul renouvellement des contrats à durée déterminée. Pour Gilles, 26 ans, qui a créé sa propre boîte de production, il faudrait y ajouter une bonne protection sociale pour tous les nouveaux modes de travail, freelance, auto-entrepreneur, etc.
La protection sociale pour les travailleurs indépendants, freelance, etc. Ça, c'est un autre sujet dont la classe politique commence à peine à s'emparer. Alors pourtant, bah, y a de plus en plus de gens qui sont auto-entrepreneurs, freelance, et qui du coup, bah, n'étant pas dans le modèle de salariat classique, sont pas protégés, protection santé, retraite, etc. Ça, c'est une vraie bombe à retardement dont il va falloir se saisir assez rapidement. Il y a pas mal à réinventer, je pense, pour que cette vogue ne soit pas au détriment de la protection sociale, du confort de vie, de la santé des gens, quoi. Peu de politiques en parlent, parce que là aussi, c'est une problématique qui concerne plus les gens de moins de 35 ou 40 ans. Et j'ai l'impression qu'en bonne politique clientéliste, on a moins envie d'adresser ces sujets parce que ça concerne moins son cœur d'électorat. Mais bah, pour nous, c'est un vrai enjeu.
Alors, question Élodie, s'il devait y avoir une priorité?
À tous, je leur ai demandé, la réponse est quasiment unanime. La priorité, c'est peut-être tout simplement de faire confiance à la jeunesse, de la prendre au sérieux. Ce livre blanc en est l'exemple, 22 propositions concrètes, réfléchies, à mettre entre les mains de tous les candidats à l'élection présidentielle.
Un grand merci, Élodie Forêt. À noter que cette semaine, les apprentis d'Auteuil ont publié eux aussi leurs revendications pour la présidentielle. On y reviendra évidemment tout à l'heure dans Le Téléphone Sonne. Louis Chauvel, vous insistez dans votre livre sur le fait que les jeunes générations sont absentes à l'Assemblée et au Sénat, et ça évidemment c'est important.
Oui, c'est important et c'est en même temps massif, c'est-à-dire que la comparaison sur une quarantaine d'années des transformations, c'est littéralement effrayant. À une époque, en 81, François Fillon était l'un des plus jeunes députés de France, à l'âge de même pas 30 ans, mais en même temps autour de lui, à gauche comme à droite, et surtout au Parti Socialiste, vous aviez tout un ensemble de leaders, de très jeunes leaders de 68, qui sont devenus très tôt, à l'âge de 30 ans, députés. Ils ont fait toute une carrière jusqu'à l'âge de 70 ans. Ce qui veut dire que la situation sur 40 ans a totalement changé en politique, dans le monde du travail, dans le monde du journalisme, dans le monde des médias, dans le monde académique, dans le monde de la santé aussi. Les pyramides des âges ont été très mal gérées dans tout un ensemble de choses. Et le témoignage, l'ensemble du reportage, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes. Mais ce qui est intéressant, par exemple, ce sont toutes les erreurs qu'on a pu commettre sur les seuils d'âge. Par exemple, il est vrai qu'en dessous de 30 ans, la situation est cataclysmique. Elle est horrible. Et en fait, dans le reportage qui a été fait, les modes de vie auraient pu être abordés. Je pense par exemple au roman récent de Léa Frédéval, Les Affamés, qui présente une situation générale de jeunes travaillant 70 heures par semaine dans 5 ou 3 stages différents, dans des situations de survie, sans chauffage et dans la capacité
générale.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette précarité ne se finit pas à l'âge de 30 ans. Il faut se retirer ça dans la tête. C'est pas parce qu'on atteint l'âge de 30 ans. Il existe un grand remplacement générationnel lié au fait que les pires choses en termes de mobilité, de transformation du monde du travail sont testées sur les jeunes, mais les jeunes ne quittent jamais intégralement cette espèce de situation de bizutage dans laquelle ils sont rentrés. C'est-à-dire, il y a ce que l'on appelle un effet cicatrice, un scarring effect, qui fait que les jeunes maltraités jusqu'à l'âge de 30 ans ne sont pas mieux traités quand ils ont 1, 2, 3 enfants à nourrir et une situation où là, ça devient sérieux.
Et vous insistez aussi sur une chose, c'est que le fait que la génération qui avait 20 ans en 68, cette génération-là, eh ben, elle a eu tout bénef sur toute la ligne. Génération
en fait, vous
bénie.
Avez des générations qui ont été bénies des dieux par une situation absolument extraordinaire du point de vue des salaires, de l'État-providence qui s'est accru, des retraites avec des carrières pleines. On pourrait faire une guirlande infinie avant Noël sur l'ensemble des coups de chance, notamment acheter son logement en 1980 pour être aujourd'hui face à l'ISF. On ne va pas pleurer sur ce genre de choses, mais évidemment. Mais la situation est que, au contraire de certaines générations bénies, il existe des générations sacrifiées. Cela se documente, cela se montre en France, aux États-Unis et dans beaucoup de pays où on voit que les jeunes font face à une situation intolérable qui ne diminue pas en vieillissant.
Voilà, et c'est un déclassement dont sont victimes ces jeunes générations. On poursuit avec Périphérie.
Périphérie, Édouard Zombo.
Bonsoir Édouard.
Bonsoir Claire.
Alors pour Périphérie précisément, vous êtes allé à la rencontre de lycéens qui, à juste titre, avec tout ce qu'on vient de dire, s'inquiètent pour leur avenir.
Et oui, effectivement, ce sont des lycéens que je suis allé voir pour aborder cette question de l'avenir et celle du déclassement que vous documentez, Louis Chauvel. De quoi demain sera fait? C'est à peu près la question que j'ai posée à une classe de terminale générale d'un lycée de Nanterre, des enfants de la classe moyenne, j'ai envie d'ajouter. Et à leur âge, qui devrait encore être celui de tous les possibles, ces jeunes adultes sont déjà obsédés par la peur du chômage, la précarité, et déjà par celle du déclassement. C'était mieux avant, n'hésitent-ils pas à dire du haut de leurs 18 ans, persuadés que forcément, ils vivront moins bien que leurs parents.
Je suis inquiète, oui. Parce que ça devient de plus en plus difficile de s'assurer un avenir.
Quand je parle avec mes grands-parents, ils avaient déjà un avenir assuré. Mon avenir, est-ce qu'il est assuré? Je sais pas du tout. Cette différence me fait un peu peur. C'est ça qui me fait peur.
J'ai un peu peur d'aller dans l'avenir.
J'ai tendance à me dire que je vais finir nulle part, quoi.
Qu'est-ce qui t'inquiète?
Avec la montée du chômage, c'est à peu près international. Donc dans tous les pays, il y en a. Les métiers, il y en a de moins en moins. Donc voilà.
Tu regrettes d'être jeune en 2016?
Non, parce que vivre c'est bien quoi, c'est amusant. Mais je regrette peut-être de commencer ma vie à cette période-là. Ouais.
L'avenir, ça t'émerveille, ça te rassure, ça t'inquiète?
Ça m'inquiète. J'aimerais bien retourner dans le passé moi.
Il vaut mieux être jeune ou vieux en France en 2016?
Ni l'un ni l'autre en fait, parce que à cause des problèmes de retraite, c'est pas forcément joyeux d'être âgé et jeune. On nous dénigre souvent, donc finalement, aucun des deux.
Alors qu'est-ce qu'il faut être?
Je crois qu'il faudrait être dans le passé. C'était vraiment mieux.
C'était mieux avant?
Oui, on peut dire ça.
Ça, c'est ce qu'on entend souvent dans les maisons de retraite.
En même temps, c'est aussi les paroles des jeunes. On voit qu'on a beaucoup perdu.
Est-ce que t'as le droit de rêver aujourd'hui, toi, à 18 ans, en 2016?
Oui, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de rêver à mon avenir. Rêver, c'est pas que pour les enfants, rêver, c'est aussi pour les grands.
Mais je pense qu'il faut rêver réaliste.
C'est quoi un rêve réaliste?
Par exemple, quand j'étais plus jeune, je me disais que ça allait se passer bien, voilà. Je continue à avoir ça comme dans ma tête, mais je reste quand même consciente que ça risque de pas se passer comme ça, quoi. On va se retrouver de petits boulots en petits boulots, et puis au final... Ça va être que ça toute notre vie, en fait. Et à la fin, on peut se retrouver chômeur, à rien faire et à rien pouvoir faire de plus, quoi.
Périphérie sur France Inter.
Les gens profitent du fait qu'il y ait du chômage pour être de plus en plus exigeants, vu qu'il y a beaucoup de demandeurs et il y a peu d'emplois. Du coup, les recruteurs, ils en profitent pour bien choisir, pour choisir les meilleurs. Les plus dociles aussi. Parce que c'est bien d'avoir des personnes qui sont prêtes à tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont, entre guillemets, désespérés par le chômage, donc ils sont prêts à tout pour subvenir aux besoins de leur famille.
On n'est pas désespérés, mais on va faire des études, mais peut-être ça va nous apporter à rien.
J'ai peur.
Peut-être dans le futur, personne n'aura du travail.
Je rêve d'avoir une belle vie, comme tout le monde. D'avoir un métier, de pas être en manque, de pas avoir besoin de... pas avoir faim.
À 18 ans, tu as peur d'avoir faim, de pas avoir de toi?
Oui, parce que pas avoir de travail, ça va me détruire moralement et je serai plus moi. Je profite à fond de ce que j'ai aujourd'hui parce que je me dis que peut-être que je l'aurai pas demain.
Ta peur, c'est le déclassement?
Oui, parce que on a ce qui nous permet d'avoir une vie correcte. Je pense pas que je puisse avoir moins. Mais je suis inquiète parce que j'ai peur de rater ma vie.
Merci, si je peux dire ça comme ça, Édouard Zambeau, Louis Chauvel, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre?
Disons qu'effectivement, l'amélioration relative que l'on peut voir dans la société française, c'est qu'à tous les étages et dans toutes les classes d'âge, il existe une prise de conscience du fait que ce que nous léguons aux nouvelles générations, ce que nous avons construit ou déconstruit depuis une trentaine d'années, est relativement grave. C'est-à-dire qu'il est important de reprendre l'ensemble de la situation, de la reprendre, si je dis la reprendre en main, c'est notamment investir de nouveau, de façon massive, dans des emplois productifs permettant aux jeunes de sortir de cette espèce de spirale infinie vers le bas, générée par le chômage de masse.
Et parce que vous appelez le déclassement scolaire. faire, c'est-à-dire ces diplômes qui ne valent plus grand-chose.
Ces diplômes qui ne valent plus grand-chose, c'est avant tout le fait que nous avons une structure de diplômes pour un pays qui se trouve peut-être dans les années 2040 ou 2050 en termes de développement économique, mais nous continuons de vivre dans un pays qui est un pays du passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de progression économique considérable depuis une trentaine d'années. La situation est encore pire aux États-Unis qu'elle ne l'est en France, comme on a pu le voir dans un article du New York Times hier sur le déclassement social, salarial des jeunes générations américaines. Mais le point important, c'est que, au bout du compte, tout un ensemble d'universités, par exemple, ont créé des diplômes de journalistes. Nous trouvons dans une situation où il y a trois fois plus de jeunes journalistes que de places de journalistes. Et on peut répéter cela dans tout un ensemble de domaines de la société où les diplômes, parce qu'ils ne sont pas suffisants en tant que tels, dès lors qu'il n'y a pas de bonne transition organisée entre le diplôme et le monde du travail, par pas simplement des stages, mais un vrai investissement qui permet de créer des emplois solides et des salaires stables avec une perspective de carrière, des diplômes seuls ne changent pas une société. Il faut des diplômes et des emplois corrects. On ne créera pas cela sans réinvestissement massif en direction des jeunes générations.
Alors, Louis Chauvel, déclassement scolaire, déclassement résidentiel, déclassement générationnel. Moi, si je vous ai bien lu, vous dites qu'on peut aboutir à une situation insurrectionnelle, carrément.
La situation devient intolérable à une partie importante de la population française. Voilà une quinzaine d'années, nous dénoncions la fracture sociale entre la classe ouvrière et le reste de la société au-dessus. Et à l'époque, les problèmes étaient minoritaires. Quand les problèmes deviennent majoritaires, dès lors que les classes moyennes sont concernées directement, dès lors que l'on assiste à ce que Theodor Geiger avait appelé en 1930 la panique dans les classes moyennes, il écrivait cela en Allemagne en 1930 et trois ans plus tard est arrivé ce que nous savons tous, c'est-à-dire le nazisme et le Troisième Reich. Des classes moyennes qui massivement font face au déclassement et à une situation où ce qui est devient intolérable, cela porte à c'est un risque politique considérable. La situation aujourd'hui est moins catastrophique que celle de l'Allemagne des années 30. Nous sommes tous d'accord dessus. Mais nous sortons d'une trentaine d'années de pente qui dérape progressivement vers des directions de plus en plus insupportables. Maintenant, l'intolérance à la réalité est devenue majoritaire.
Voilà. Et l'avertissement est sévère, on l'a bien entendu. Merci, Louis Chauvel.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Voilà, avertissement à l'adresse des politiques, ça tombe bien parce que le mot de la semaine, bonsoir Mariette Darigrand.
Bonsoir.
Le mot, c'est en fait une expression, l'expression faire campagne.
Oui, l'expression faire campagne, car tous les candidats, chaque jour plus nombreux d'ailleurs, sont partis en campagne, comme l'ont dit les médias toute la semaine. Le départ a été donné et on voit en effet qu'ils sont partis, la fleur au fusil. L'atmosphère médiatique s'est électrisée et même, j'oserais le dire, érotisée. Beaucoup d'excitation dans l'air, une certaine testostérone, pas mal d'hommes, une seule femme qui compte et vous aurez remarqué clair que ce n'est pas la moins martiale. Alors tous ces candidats qui ont l'air si souvent de s'ennuyer en faisant de la politique au quotidien, les voilà regonflé à bloc, heureux d'en découdre, libéré des charges habituelles, cette austère gestion de la cité qui ressemble plus au travail du paysan qu'à celui du guerrier.
Mais encore, Mariette, pourquoi cette expression « faire campagne » ?
Eh bien justement, « faire campagne » est une expression militaire. Donc avec elle, le politique quitte son habit de gestionnaire un peu étriqué et il devient un fier soldat de la République, un général d'armée du peuple. Il mène sa campagne comme Napoléon allant vers Austerlitz. Les accents sont lyriques. Mars se réveille et il en finit avec ce que j'appellerais les compléments d'objet direct, avec faire campagne. On n'a pas d'objet, c'est comme partir, c'est comme combattre, c'est comme gagner, c'est comme rassembler. Alors pourquoi pas, hein, l'énergie du combat doit bien s'exprimer par ces temps difficiles et cette époque épique que nous vivons. Mais j'avais envie, Claire, quand même de rappeler aux candidats qui ont tous le mot français à la bouche, de se rappeler que précisément les Français, en tout cas les poètes français, catégorie il est vrai peu interpellée dans les campagnes électorales, eh bien les poètes français ont inventé une métaphore essentielle de notre identité à la fin du Moyen-Âge. Figurez-vous qu'ils ont décrété que faire campagne, ça voulait dire faire la cour.
C'est un petit peu ça remarqué ce jour. Hein.
Oui, le combat a dû se transformer en doux combat, en belle manœuvre. Bien avant les hippies, ces poètes français étaient défenseurs du « Faites l'amour, pas la guerre », qui fait passer de la brutalité à la douceur, du despotisme au vivre ensemble, de la chevalerie à la démocratie. Alors ce passage historique est bien plus qu'un petit jeu de langage, hein. C'est un véritable processus de civilisation, comme l'a si bien expliqué le grand historien du monde occidental, Norbert Elias.
Et là, a priori, on en est loin.
Et oui, et pourtant notre vocabulaire le raconte parfaitement. Le mot campus en latin, avant de donner campagne, avait donné champ. Champ de bataille, champ de ruines, certes, mais aussi champ féminin. Corps de la femme désirée et aimée, selon l'amour courtois, puis selon les libertins avant la Révolution, puis tous ceux qui ont su, bien évidemment, que la démocratie passe par l'adoucissement des mœurs. Au final, le champ de la cité. Alors ils sont bien loin de cela, en effet, nos tribuns belliqueux partis en campagne, nos va-t-en-guerre médiatiques. Mais pourquoi ne pas leur rappeler ce trésor culturel? D'autant plus que, soyons clairs, hein, ils veulent au fond séduire la France. Ils la désirent pour qu'une fois terminée l'épuisante campagne, ils soient leur repos du guerrier. Elles soient leur repos du guerrier, 5 ans pour se remettre. Dès lors, il faut les prendre au mot, clair, je crois, et obtenir d'eux qu'ils se gardent un peu d'énergie guerrière pour mener, à partir de mai prochain, les vrais combats, car la guerre, alors, ne sera pas métaphorique.
Merci beaucoup, Mariette Darugrand. Une petite réaction, Louis Chauvel ? Rapide ?
Oui, effectivement, quand on regarde le personnel politique aujourd'hui, on voit que beaucoup labourent beaucoup de champs à la fois, et il serait temps, effectivement, qu'ils se rappellent au fait qu'il existe un pays dont ils ont la charge ou le prétendent, et mettent du contenu dans leur campagne, plutôt que du style, de l'emphase, et bénéficier simplement des avantages de la fonction présidentielle, ministérielle, gouvernementale, ou de représentant politique. Si nous sommes là, c'est aussi pour remettre aux générations futures une situation meilleure que celle que l'on a rencontrée nous-mêmes à un âge donné. Nous en sommes très très loin. Et effectivement, plutôt que de labourer leur champ, tous ces gens ou ces hommes en campagne feraient bien de semer un peu plus à tout vent pour les générations futures.
Merci beaucoup Louis Chauvel. On va passer aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Surtout après ce qu'on vient d'entendre, trois quarts d'heure à parler de sujets un petit peu rudes. On a besoin de vous ce soir. Où nous emmenez-vous Sandrine ?
Claire.
Oui ?
Dans les nuages.
Dans les nuages. C'est-à-dire au-dessus de la pollution ?
Au-dessus de la pollution, au-dessus des primaires, au-dessus des pannes de train, au-dessus des galères, au-dessus de tout. On va décoller à bord d'un Airbus A330. On part pour le pays d'un très, très, très vieux monsieur. Il est tout rouge, il a une grande barbe.
Ouais, je crois que j'ai deviné. Vous êtes partie, Sandrine, avec l'association Les Petits Princes, qui offre du rêve à des enfants malades, très malades. Alors, Sandrine, on embarque ?
Oui, vous allez voir à quel point c'est bon le sourire de ces gamins. Pourtant, vous l'avez dit, malade, c'est une leçon de vie, carrément.
Alors, on y va, direction Roissy, pour un embarquement pas comme les autres.
Imaginez, près d'une cinquantaine d'enfants, plus leurs parents, plus leurs frères et sœurs, plus les doudous, Claire. Les doudous, eh ben oui, pas question de laisser doudou à la maison, doudou qui ne viendrait pas, alors qu'on va peut-être...
Voir le Père Noël.
Non, c'est pas vrai, tu vas voir le Père Noël où ?
Au Pôle Nord.
Au Pôle Nord ?
Oui, avec des pingouins.
Tu as quel âge, Minette ?
5 ans.
Et ce jour-là, sa maman n'en a pas beaucoup plus, très émue.
Je crois que je le suis même plus qu'elle.
De quoi souffre Eden ?
Elle souffre d'un effusion congénital, grain de beauté géant sur le corps. Depuis 5 ans, elle s'est fait opérer plusieurs fois. Et quand on est là, dans le bonheur comme ça, bah, c'est du rêve, quoi. C'est ce qui nous donne la force.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander, vous, au Père Noël ?
Qu'il apporte le plus de bonheur possible à ces petits bouts-là, parce que ça n'a pas de prix.
Il ressemble à quoi, le Père Noël ? Tu l'as déjà vu ?
Bah, une grosse barbe, un vieux monsieur.
Et qu'est-ce que tu vas lui dire ?
Je t'aime, Père Noël.
Eh oui, la question ne se pose même pas. Tous les enfants ici en sont red-dingues.
Dans mes rêves, je le regarde et il a un manteau rouge, une barbe blanche très longue.
Tu rêves du Père Noël ?
Oui.
Tu as commandé quoi comme cadeau ?
Un jeu où on joue avec de la chantilly. Je le mérite.
Pourquoi tu le mérites, Minou ?
Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour pas mourir.
Pour pas mourir ?
Oui, alors je le mérite.
Amy est venue avec Elsa, sa petite sœur et son papa.
Amy, son estomac a implosé au mois de décembre, il y a 2 ans. Elle est restée 15 jours dans le coma. Rééducation, réapprendre à marcher.
Vous partez avec elle rencontrer le Père Noël, là. Ça vous apporte quoi d'aller rencontrer le Père Noël ?
c'est grand. Et j'aimerais lui demander voilà, qu'il prenne soin d'Emmy. D'Emmy.
Bon voyage, hein.
Merci beaucoup.
Mais je viens aussi parce que moi je vais le voir. Hein.
Alors on y va ensemble.
ABC.
ABC, je vais me mettre tout au fond.
Les manteaux, attends.
Bienvenue à bord du vol TS-9224 en direction du pôle Nord. Alors la météo pôle Nord aujourd'hui nous informe qu'il fait aujourd'hui moins 1000 degrés. Ce n'est pas pour rien que le Père Noël et ses petits rennes ont le nez rouge. Regardez bien par le hublot, des fois, il se cache pour ne pas être aperçu.
Amy, tu vas bien regarder par la fenêtre?
Oui.
Avant de partir, j'aimerais bien que votre ceinture de sécurité soit bien bouclée.
Est-ce que tu es contente?
Très, très, très. Papa Noël,
une heure et demie à chanter dans les nuages, puis le choc.
Oh, oh, ça y est les enfants, je vois sur mon écran radar quelque chose.
J'ai vu sa barbe.
Comment tu t'appelles?
Eden.
Putain, cadeau.
Merci. Au revoir, Père Noël.
Et quelques rangs plus loin, Amy ouvre ses paquets.
Tu vois, tu as plein de cadeaux. Tu as dit tout à l'heure que tu le méritais.
Et je l'ai mérité.
Est-ce que tu vas raconter tout ça à tes copines?
Oui. Je vais leur dire que j'ai fait un grand voyage extraordinaire. Trop génial.
Et pari gagné pour Dominique Bell, la présidente des Petits Princes.
Il y a une phrase, moi, qui me revient. Un enfant malade qui a réalisé son rêve. Il avait rencontré Barthès et qu'un autre enfant, en pleine santé, lui dit « Oh là là, qu'est-ce que je t'envie ?» Tu te rends compte? Ça vous porte pour continuer des années et des années.
Et le Père Noël alors, qu'est-ce qu'il en pense de ce voyage?
C'est une joie. J'ai envie de leur dire, vous êtes beaux, je vous aime et à bientôt.
Quand il descendra du ciel, avec tes joies.
Merci beaucoup Sandrine Houdin et merci à l'association Les Petits Princes pour ses actions, pour toutes les infos petitsprinces.com. Au pluriel, Louis Chauvel.
Oui, c'est un témoignage extrêmement émouvant. Et en fait, il faut en prendre la leçon, c'est-à-dire ces enfants malades nous enseignent que dans une France malade, il est important de recourir au voyage, que ce soit en avion ou pour voir ailleurs au moins une heure, une année, une génération. Beaucoup de jeunes face à une situation française, de jeunes de 25 à 55 ans, face à une situation française extrêmement déstabilisée, trouvent des ressources nouvelles extraordinaires en partant en voyage en Australie, au Québec, dans tout un ensemble de pays, Venezuela ou autre, où effectivement ce voyage est une ressource extraordinaire que ces enfants nous enseignent que dans notre société malade, partir ailleurs est une façon de revenir en meilleure santé.
Merci beaucoup Louis Chauvel. Une semaine en France, c'est terminé pour aujourd'hui. Louis Chauvel, vous restez avec nous pour le téléphone sonne qui sera consacré aux jeunes générations avec cette question. Que demandent les jeunes aux politiques à 5 mois de la présidentielle? On en parlera avec le sociologue Michel Fize, avec Laura Slimani, présidente des jeunes socialistes européens, et avec Giuseppe Aviges, le vice-président de l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler, que vous soyez jeune ou pas d'ailleurs. Vous pouvez nous laisser vos messages sur le net avec le mot dièse Telson. Vous avez aussi le téléphone 01 45 24 7000.